Crésus. Crésus, la radio qui vous aide.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Crésus pour cette nouvelle émission du mois de décembre avec, comme toujours vous le savez, vous connaissez le principe, des témoignages, donc des personnes accompagnées par Crésus qui s'expriment, qui nous expliquent effectivement leur parcours, leurs difficultés, mais aussi les solutions qui ont été trouvées. Et nous avons avec nous un témoin qui s'était déjà exprimé au mois d'avril. Bonjour Étienne.
Bonjour
Étienne, alors vous êtes sur Radio Crésus, avec moi Marilyn Wächter de la Chambre de Consommation d'Alsace, juriste.
Bonjour.
Et Jean-Emmanuel Medina, qui est stagiaire avocat et qui pourra apporter aussi des éclairages juridiques.
Bonjour.
Voilà, alors Étienne, peut-être pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte vous aviez été initialement accompagné par Crésus, hein, et puis on verra aujourd'hui quelle est votre situation après quelques mois.
Alors, j'ai, avec mon épouse, été accompagné par Crésus, d'abord par la sollicitation d'un de nos créanciers qui était plutôt convenable, si je puis dire, avec nous à l'époque, qui nous avait dit devant notre situation que il serait peut-être préférable d'avoir un accompagnement par votre association, ce que nous avons accepté de suite compte tenu de notre situation. Et les relations quasiment hebdomadaires qu'on a eues avec l'association nous ont conduit à envisager plusieurs scénarios et le meilleur des scénarios à l'époque, c'était que nous demandions au tribunal de grande instance un moratoire, puisque j'avais accepté une mutation professionnelle qui avait entraîné le chômage de mon épouse pour suivi de conjoint. Et donc à ce moment-là, une grosse perte de revenus, une période de chômage pour mon épouse et une difficulté de faire face à l'ensemble des échéances qui étaient importantes, qui sont importantes.
D'accord. Alors vous êtes dans quel domaine d'activité professionnelle ?
Dans la fonction publique.
Fonction publique. Donc effectivement, mutation, déménagement, perte d'emploi de votre
mutation,
épouse.
Mutation, déménagement, chômage oui. pour mon épouse et puis bah, voilà, les frais liés... au départ, etc., ont entraîné des charges supplémentaires, des frais qui n'étaient pas prévus, et puis des revenus de l'ordre de 2500 euros en moins, qui sur des revenus très confortables qui nous permettaient de faire face à nos échéances avant. Et dans un premier temps, moi, j'avais adressé un courrier recommandé à chacun des créanciers pour leur faire part de notre situation et leur demander de... un plan d'apurement, enfin une relation à l'amiable, ce qu'ils ont tous refusé parce que un an et demi auparavant à peu près, on avait déjà à la force du poignet obtenu le passage par exemple des crédits renouvelables en crédit
amortissable
consommation avec oui. des taux qui étaient de 5-6% au lieu des 20% proche du taux d'usure, enfin voilà. Mais la deuxième fois, au bout d'un an et demi, nous ont tous répondu que c'était pas acceptable, qu'ils l'avaient déjà fait, etc., etc. Donc une relation tendue, et la relation avec Crésus nous a permis de considérer que finalement le plan Banque de France c'était peut-être pas tout de suite la solution et qu'on pouvait éventuellement s'en sortir par la saisine du tribunal de grande instance. Donc on a pris notre courage à deux mains. On a fait ça tout seul avec l'aide de Crésus, sans avocat. Et chacun des créanciers, c'est-à-dire une dizaine.
Oui.
On les a assignés au tribunal de grande instance pour demander un moratoire de 24 mois, ce qui nous permettait, selon la formule consacrée, de recouvrer meilleure fortune.
Voilà. Juste une précision, Étienne. Jean-Emmanuel Medina attire notre attention sur le fait que c'était certainement le tribunal d'instance.
D'instance, oui, plus que le tribunal de grande instance, parce que... Il faut savoir que devant le tribunal de grande instance, il est nécessaire d'avoir un avocat. Donc je pense que dans les situations qui étaient les vôtres, étant donné que vous aviez des crédits à la consommation, le tribunal d'instance a une compétence d'attribution. Et donc c'est le tribunal d'instance que vous avez dû solliciter pour trouver une solution et notamment obtenir un délai de paiement. C'est bien ça dont il est question.
C'est ça, tout à fait.
D'accord.
Voilà, donc ça, oui, alors c'est important de dire qu'on peut effectivement agir en justice dans certaines situations, même sans, je dirais, la représentation par avocat, hein, ou l'assistance par avocat.
C'est ça. Alors, elle peut apparaître nécessaire. Bon, je,
Oui.
De considérer que, enfin, nous avions considéré que de toute façon nous n'avions pas les moyens d'en prendre un compte tenu des frais d'huissier qui avaient déjà été les nôtres pour obtenir cette assignation. Et puis bon voilà, c'est mes capacités orales, excusez-moi de le dire comme ça, mais je n'avais plus peur d'eux. Ils m'ont fait peur pendant des années et oui. Maintenant j'avais plus peur d'eux. J'avais le droit de mon côté à mon avis. On avait fait toutes les choses dans les règles. Moi, j'avais 3 mois de recommandé. Et ce qui était important, parce que ça, c'était évidemment sur les conseils de Crésus, c'est qu'on avait quand même réussi à payer tous les mois, jusqu'à l'assignation, la moitié de chacune de nos échéances.
Vous aviez suivi les recommandations Crésus. Vous aviez finalement
Absolument.
Fait les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire que les paiements réguliers en fonction de vos capacités de remboursement. Des contacts conservés avec les créanciers pour les solliciter dans une phase amiable qui, malheureusement, n'a pas abouti. Hein.
C'est ça.
Et ce qui vous a permis, effectivement, d'avoir gain de cause auprès du tribunal ?
Ce qui nous a permis d'avoir gain de cause au tribunal, alors bon, il faut être courageux et pas avoir peur, je le disais à l'instant, parce qu'il y a eu une première audience qui a été reportée à la demande des organismes de crédit qui n'étaient pas tous représentés, mais les principaux étaient représentés par un avocat. Reporté un mois plus tard à nouveau reporté, et donc c'est au bout de la troisième audience qu'on a pu présenter nos arguments. Et devant le tribunal, nos arguments, ils étaient à la fois solides et puis ils étaient respectueux de la loi, parce que moi j'avais pu montrer un dossier assez épais que tous les mois j'avais, par courrier recommandé, demandé des délais, que j'étais de bonne foi, et ça c'est ce qui est le plus important, que j'étais de bonne foi parce que la période de chômage de mon épouse était subie. Et pas souhaité, oui. qu'on avait payé en temps tous les mois et que j'avais jamais rompu le dialogue avec eux.
Oui.
Donc, je pense que ces arguments-là ont été entendus. Et donc, ça, entre septembre, on a eu le jugement début janvier de l'année dernière qui nous a accordé un délai de 12 mois.
Oui, donc on voit dans votre témoignage, on comprend qu'il est important de montrer dans le dossier, donc de justifier sa situation pour montrer au tribunal et au juge donc que l'on est de bonne foi et que la situation, elle arrive à un moment donné où il est difficile pour vous de faire face. Donc on comprend l'importance de justifier dans les documents qui seront donnés, notamment dans l'assignation, pour dire les choses plus clairement, la situation qui est la vôtre. Le fait et les explications sont importantes.
Les explications sont importantes et puis voilà, comme en justice on le sait, c'est d'apporter la preuve des choses et la preuve, les preuves, elles étaient là. C'est un combat, c'est vrai que c'est difficile et quand vous avez en face de vous, vous êtes un seul justiciable et vous avez un avocat qui manie les choses plus aisément que vous, mais moi j'ai eu le courage de ne pas me démonter et d'expliquer au tribunal que les arguments de l'avocat étaient fallacieux, ils étaient... erroné la plupart du temps, puisque moi j'avais les copies des chèques que j'avais envoyées.
Donc vous aviez
les accusés de réception, etc.
Oui. Étienne, vous aviez effectivement.
C'est un dossier béton. Quoi.
Voilà, vous aviez bien monté le dossier avec les conseils de Crésus, ça c'est important.
Oui.
Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est effectivement où vous en êtes, parce que vous avez effectivement là suivi les conseils et les recommandations de Crésus, on sent gagné en confiance face à vos créanciers aussi, pour pouvoir vous exprimer en justice, ça c'est important. De le dire. On a bien compris que le parcours que vous avez suivi, ce n'est pas un parcours qui est simple. Il y a des reports d'audience, etc. Il faut s'accrocher. Donc ça, vous l'avez fait aussi. Et aujourd'hui, est-ce que ça a porté ses fruits, tous ces efforts que vous avez pu mener ?
Ben aujourd'hui, ça a porté des fruits d'abord parce que, et c'est finalement l'argumentaire, le premier argumentaire que moi j'avais porté devant le tribunal, c'est qu'à la fois on ne pouvait pas faire face à toutes les échéances, mais que d'abord on avait des dettes fiscales et qu'avant toute autre chose, notre importance. Le plus important pour nous, c'est d'apurer les dettes fiscales qui étaient de l'ordre
oui.
de 10 000 euros à l'époque. Et dans le plan, dans la demande qu'on faisait au tribunal, c'était aussi de surseoir à l'ensemble des paiements dus aux créanciers, mais de nous proposer un plan de paiement sur l'année 2013 avec le Trésor public, parce que les avis à tiers détenteurs commençaient à arriver sur
oui.
nos comptes.
Est-ce que le juge a fait droit à vos demandes ? Est-ce que le juge a fait droit à vos demandes ?
Et le juge a fait droit à nos demandes. Il a divisé la dette fiscale en 10 mensualités, ce que les impôts n'avaient pas voulu faire à l'amiable. Et du coup, on est en décembre. J'ai envoyé le dernier chèque de nos retards fiscaux. Et voilà, ça, c'était important pour nous. Et puis, nous avons maintenant, puisqu'entre-temps, dans cette année, malheureusement, j'ai eu un problème d'emploi également. Donc, on s'est retrouvés tous les deux au chômage.
Oui.
En se disant, bah mince, en janvier, les échéances, elles reprennent. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Oui.
Et puis, finalement, nous avons tous les deux retrouvé du travail. Donc, à partir de janvier, nous pouvons reprendre...
D'accord.
Le chemin du remboursement de ces échéances.
Aujourd'hui, je dirais que la situation pour vous, elle est stabilisée malgré des aléas. On n'est jamais à l'abri, mais vous avez su faire face, vous vous êtes battu. Et aujourd'hui, effectivement, et pour 2014, les choses sont rentrées dans l'ordre, on va dire.
Les choses sont rentrées dans l'ordre.
Oui.
Alors, voilà,
ouais.
Ces dettes, elles sont toujours à payer. On est perdu
jusqu'au
bout parce qu'elles sont dues. Nous les devions, donc on va les payer jusqu'au bout. Mais effectivement, il y a eu un an et demi un peu... Enfin, il y a eu 6 mois difficiles dans cette période d'assignation et d'audience.
Oui.
Et puis un an de tranquillité en disant, bon, voilà, on ne craint pas d'avoir un ADT, de ne pas pouvoir payer notre loyer, de ne pas pouvoir payer le DF. Donc tout était bordé. Et j'ai juste un créancier qui a commencé à déconner au mois de novembre en commençant à refaire des prélèvements, à qui j'ai envoyé un nouveau recommandé en disant, voilà, moi, j'ai un jugement qui dit que les prélèvements
sont suspendus.
On va reprendre à partir de janvier 2014.
D'accord.
Et reprendront à partir de janvier 2014.
Oui, donc il faut rester vigilant, hein, bien
oui.
Qu'une décision de justice soit prise, parce qu'on voit que les créanciers essayent malgré tout de forcer, de faire le forcing. Hein. Alors, c'est vrai que là, on a bien compris, Étienne, que dans cette période de tourmente, finalement, hein, ces mois-là qui ont été très difficiles, on a bien compris que finalement, le rôle de Crésus a été de vous soutenir, de vous accompagner et de vous orienter, de vous éclairer sur la manière de faire. Hein.
C'est ça, oui, parce que je n'avais aucune espèce d'idée sur la manière dont il fallait faire à ce moment-là. Quoi.
Voilà. Alors, si en quelques mots, vous aviez des conseils à donner à nos auditeurs.
Bah, c'est les mots que j'ai déjà employés tout à l'heure. Ce sont des mots un peu durs, mais c'est un combat qu'il faut mener parce qu'il faut faire face à ces crédits. Et surtout, il ne faut pas avoir peur parce qu'en face, vous avez, je peux le dire, alors j'emploie les guillemets, mais on a quand même la plupart du temps affaire à des voyous, des gens qui sont là pour vous faire peur, qui sont là pour vous dire des choses qui sont erronées et qu'il y a dans notre République un système judiciaire qui, même s'il est compliqué, même s'il est lent, même si de temps en temps on a l'impression qu'il n'est pas du côté du justifiable, mais du côté des puissants, notre réalité à nous, je ne dis pas que c'est forcément le cas partout, mais notre réalité à nous, c'est que le droit était avec nous, que nous étions de bonne foi et que, donc au final, le combat, il a été gagné. Donc,
voilà, et vous avez le sentiment que la justice, finalement, a été rendue pleinement, d'une certaine manière. Il y a un équilibre qui a été trouvé.
Absolument, absolument.
Ouais.
Il a été rendu, voilà, parce que nous étions de bonne foi. Voilà.
Voilà.
Si on peut pas prouver ça, je pense que effectivement la justice a sans doute plus de mal à accorder des délais, à faire confiance. Pour avoir la confiance de la justice, il faut être de bonne foi.
Eh bien, merci beaucoup pour ces mots, Étienne. On vous remercie d'avoir témoigné une seconde fois et de nous avoir fait part de l'évolution de votre situation. On vous dit à bientôt sur Radio Crésus. Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, la radio qui vous aide.
Oui, vous êtes toujours sur Radio Crésus et nous enchaînons avec un nouveau témoignage, Monsieur Serkan, qui pourra profiter de la vision experte de Michel Knull qui nous a rejoint. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et toujours Marine Wechter et Jean-Emmanuel Medina avec nous. Serkan, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous avez souhaité témoigner sur Radio Crésus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe?
Alors, je voulais parler de la galerie de la Grande Verrière à la gare. Donc, c'est une galerie où on est envahi en permanence par la poussière, malgré ce qui a été effectué cet été. Voilà.
Alors, il s'agit bien de parler de votre situation personnelle, hein, de comment
oui,
vous...
oui, oui. Oui, voilà. Donc, moi, j'avais un commerce qui... Oui. Pendant 4 ans à la gare.
Allez-y.
Pardon.
Oui, on vous écoute.
Oui, monsieur Serkan. Bonjour, Michel Knoll.
Bonjour.
Ok, on a parlé de votre problème, je le connais bien. Vous étiez d'ailleurs courageux puisque vous aviez ouvert cette petite affaire, en 2008. Hein, vous avez tenu le choc, car tous ceux qui se sont implantés là-bas, ben, c'est des gens qui se sont certes pas enrichis comme on pourrait le croire quand on a son affaire, bien au contraire. Et on s'appauvrit, on perd tout. Alors chez vous, donc vous avez fait la liquidation donc de votre activité commerciale, mais comme toutes ces entreprises qu'on crée, car on a confiance en l'avenir, on croit que si on devient patron, qu'on a enfin résolu son problème de revenus, eh bien, chez vous, c'est l'enfer qui a commencé. Hein?
Oui, c'est exactement ça. C'est
tout à fait l'enfer, et j'ai souvent suivi les événements de cette fameuse galerie dans la presse. On en a beaucoup parlé, mais il y a très peu de solutions pour les gens qui ont été victimes, dans vous-même. Et pas seulement vous-même, mais je crois aussi votre femme et vos parents et même vos enfants.
Exactement.
Voilà. Donc maintenant, on va donc mettre en route et vous préparer votre affaire parce qu'il faut vous libérer de vos dettes personnelles à travers le cautionnement. Donc c'est la dernière phase. Et puis nous verrons aussi pour vos parents qui sont impliqués. Nous voyons une chose après l'autre, mais je pense que vous avez retrouvé la confiance en vous. Vous savez qu'il y a encore un petit combat à mener, que nous allons le mener ensemble avec Résus et vous. Et vous êtes un mec bien, vous avez retrouvé du travail, vous travaillez pour nourrir votre famille. Et je vous tire aussi mon chapeau sur ce plan, car c'est aussi des attitudes qu'on ne trouve pas toujours, mais plutôt des attitudes en minorité. Alors, bravo à vous, Monsieur Serkan. Et donc, on se verra avec le dossier prêt. S'il y a quoi que ce soit, vous nous appelez afin que dès que vous l'amenez, on puisse rapidement nous y atteler pour vous libérer au plus tôt. Avez-vous d'autres questions, M. Serkan?
Non, je n'ai pas d'autres questions.
Eh bien, ça va. Je vous salue. À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci.
Crésus. Crésus, la radio qui vous aide.
Vous êtes toujours sur Radio Crésus et nous enchaînons avec François. Bonjour, François.
Bonjour.
Voilà, vous étiez gérant d'une SARL de rénovation, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Voilà. Est-ce que vous pouvez, peut-être Michel Knoll va nous faire part peut-être de la situation qu'il connaît bien, et puis vous pourrez nous apporter, vous, vos éclairages sur la manière dont vous avez été accompagné par Crésus.
Hein, ok, très bien.
Comme ça, Michel.
Oui, bonjour, François.
Bonjour, Monsieur Knoll.
On se connaît, on vous aime beaucoup, et vous avez une petite famille qui vous tient à cœur. Et en étant gérant de SRL, c'est beau, mais vous n'aviez plus de chiffre d'affaires pour faire tourner la machine, hein?
Non.
Et il y a le RSI qui vous talonne, hein?
Un tout petit peu, oui.
Et c'est ça qui fait rendre les armes, car d'un côté, on n'a pas de marché qui rentre, il ne rentre pas tout seul, il n'y a pas encore de pôle emploi pour les marchés qui rentrent. Ça viendra peut-être un jour. Il faut qu'il y ait un peu de créativité dans la société. Il y a encore des points qui sont effectivement à développer. C'en est un. Vous étiez donc sans marché, mais le RSI, lui, c'est une machine ténébreuse qui broie d'ailleurs beaucoup de monde à travers toute la France. Et alors, je crois que nos politiques devraient s'intéresser au fonctionnement du RSI afin que là aussi, il y ait des solutions trouvées, car elles sont nulles. Il n'y en a aucune. C'est plutôt un instrument, on se demande s'il ne doit pas exterminer les riches commerçants ou industriels ou artisans qui osent encore s'installer. Alors c'est une machine à tuer qui crée du chômage et qui crée de la misère. Voilà pour l'idée que j'en ai, vous n'êtes pas le seul. Et donc, au fond, vous avez eu la liquidation, je crois me souvenir, hein, de votre petite entreprise.
Oui.
Et aujourd'hui,
qu'est-ce que vous faites,
monsieur François?
Je fais de l'intérim.
Parce qu'il faut bien nourrir la famille, hein?
Exactement.
Alors, avec l'intérim, vous avez moins de soucis?
Dans le sens où on a du revenu, oui. Maintenant, en termes de qualité d'emploi et de rémunération, ça reste ridicule. Parce qu'effectivement, on fait face, comme on en parle un petit peu en ce moment, on fait face au détachement, aux salariés détachés. Et donc, au niveau des salaires, on est obligé de s'aligner sur les salaires que donnent... des entreprises à des travailleurs polonais, par exemple, ça m'est arrivé sur un chantier.
Ah, vous le voyez, donc il y a lissement des salaires qui est lié effectivement à cette, à ce processus européen qui fait que, ma foi, tous les petits Européens participent à la soupe. Hein, et le petit Français se sent comprimé. Il n'est plus effectivement maître de son destin.
C'est ça.
Ah ben alors, il faut créer une petite entreprise à employer des Polonais. Vous voyez, comme ça, vous serez aussi riche. Hein.
Ah,
il faut trouver des solutions. Qu'est-ce que vous voulez? Le monde, c'est une grande bagarre. À vous d'en trouver, d'innover, etc. Vous serez respecté. Vous avez, vous, le courage d'acheter une maison pour votre petite famille, votre petit enfant, qui fait le bonheur de votre couple. Votre femme elle-même est une profession paramédicale libérale. Eh bien, elle est aussi mise en danger. Nous verrons ça plus tard. Car le jour, effectivement, on lui demandera les sous, puisque vous êtes solidaire, elle ne pourra plus continuer d'exercer sa profession à titre libéral. Et là, c'est un problème qui m'est posé tous les jours, car il y a des gens remarquables qui veulent de nouveau s'installer comme agent commercial ou autre, mais quand ils ont effectivement été en liquidation personnelle, commerciale et civile en Alsace-Moselle seulement, eh bien, ils ne peuvent pas s'installer avant la clôture de leur dossier de liquidation professionnel, donc, cessation de paiement. Et donc, là, ces gens-là traînent avec un RSA et tout. Alors, là aussi, politiquement, c'est une situation à étudier, vous voyez. Il y a énormément de choses en France à étudier, mais on s'occupe de choses fort intéressantes, d'ailleurs, sur un plan polyculturel, mais qui n'amènent pas, effectivement, la solution aux problèmes socio-économiques. Et c'est ça qui me révolte. Donc, François, je te remercie de ton témoignage. Nous nous reverrons prochainement pour la suite. Et je te remercie. Je laisse la parole à M. Alter, qui va encore vous saluer.
Voilà, François. Si vous avez en trois mots, par rapport à l'accompagnement Crésus, si vous aviez à le définir pour nos auditeurs.
Nécessaire, judicieux, et ça permet de revoir les choses de façon un petit peu plus sereine, parce que quand on est dans une situation comme ça,
C'est parfait.
On commence à avoir la tête dans le guidon et à rien voir. Et,
merci beaucoup.
C'est une sorte de lumière, quoi.
Merci beaucoup, François, pour la lumière, et merci pour le temps consacré à Crésus. À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, la radio qui vous aide.
Voilà, vous êtes toujours sur Radio Crésus, et cette fois, c'est Mohamed qui témoigne. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Voilà, vous êtes sur Radio Crésus, et Michel Kneul est parmi nous, également Marlène Wechter et Jean-Emmanuel Medina. Michel va peut-être faire une petite introduction pour exposer votre situation qui l'accompagne, et vous aurez l'occasion de vous exprimer aussi sur l'accompagnement Crésus. Merci. À vous, Michel.
Oui, bonjour Monsieur Mohamed, vous allez bien?
Très bien, merci.
Vous mangez toujours beaucoup d'olives, oui?
Oui, ça va, oui.
Hein, vous avez terminé votre stock, car Monsieur Mohamed avait ouvert un petit négoce d'olives. Elles venaient de quel pays, ces olives?
Du Maroc.
Et il y en a plusieurs sortes, hein, je crois.
Oui, tout à fait, oui.
Et l'argan, c'est autre chose comme fruit, ou c'est aussi une sorte d'olive?
Non, c'est une huile.
Oui, c'est pas mal ça. Ça marche bien ce
truc.
Oui. En tout cas, vos olives, donc, vous les avez mis en commerce. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de mettre ça en commerce?
Parce que c'était un métier que je faisais avant au Maroc, avant de venir ici en France.
Uh-huh.
Et après, oui.
Et au Maroc, ça marchait bien?
Au Maroc, ça marchait bien. Ça marchait très bien.
Vous avez vendu
Maroc,
les...
C'est un peu différent qu'ici parce que on n'a pas autant de frais comme ici, quoi, on va dire.
Ah, mais ça, c'est les délices français, hein. C'est la contrepartie, la contrepartie des bienfaits de la politique sociale française. Dès que vous êtes à votre compte, il faut payer. C'est ça la France aussi, hein.
Tout à fait,
oui. Ah oui, mais on ne le dit pas assez parce que ça ferait réfléchir avant de se mettre à son compte, par exemple, vous voyez. Parce que vendre des olives, c'est bien, mais il faut beaucoup de chiffres pour se nourrir, d'une part, parce qu'on ne peut pas toujours manger les noyaux d'olives. Hein. Et puis, ma foi, il faut payer les charges, vous l'avez compris. Et puis, quand vous êtes commerçant, vous avez beaucoup de copains, il faut un peu d'argent de poche, sinon vous n'avez plus de copains ni de copines. Hein.
Exactement.
Ouais. Vous l'aviez aussi compris. Hein.
Ouais.
Donc, vous avez eu des prêts pour vous installer, vous avez eu le prêt OCO, etc. Vous avez eu combien de prêts?
Alors, j'en ai eu 13 500 entre OSEO et la banque.
Et quoi d'autre encore?
Et un autre prêt professionnel à la même banque de 15 000.
ça donc, c'est un prêt.
Donc ça vous fait 28 000 euros de prêt, hein?
Exactement, oui.
Ben, vous avez eu plus de prêts que de chiffre d'affaires, hein, puisqu'en un an, vous avez quasiment, la boîte était par terre, hein?
Ouais,
donc, avec les 28 000 euros, vous aviez des copains et des olives. Et quand tout, après, il n'y avait plus rien, il n'y avait ni olives, ni argent, et ni copains. Donc c'est la fin d'un monde, hein? C'est intéressant votre expérience, vous voyez, parce que ce sera un peu en sociologie que ça place aussi le jeune créateur d'entreprise. Et il faudrait que les créateurs d'entreprise, ils aient un minimum de connaissances et de pratiques de la vie, ce qui n'était pas forcément votre cas, parce que vous êtes un gentil garçon, mais sans doute trop gentil. Et donc, vous n'étiez pas armé, n'est-ce pas, d'une part sur le plan commercial, gestion, stratégique, etc., ni sur un plan, effectivement, de vous comporter avec l'argent, afin que vous méfiez, effectivement, tous les solliciteurs et, ma foi, et tous ceux qui vous délivrent des bonnes paroles, sachant bien que vous êtes très réceptif à cela. C'est une bonne expérience. Donc, au fond, avec Résus, nous avons accouché, parce que vous avez sans doute aussi vu l'un ou l'autre médecin pour vous soigner sur d'autres plans un peu, parce que c'est un choc, c'est un nouveau monde pour vous qui s'ouvre. Hein? Mais je crois que vous êtes attentif à cela. Ok, donc M. Alder va vous demander si Crésus vous a amené quelque chose. Je vais vous laisser la parole, mon cher Mohamed, et je vous salue, vous dis à bientôt. Au revoir.
Merci Michel.
À très bientôt.
Voilà, Mohamed, merci. Juste pour conclure cette interview, en trois mots, qu'est-ce que vous a apporté Crésus en deux ou trois mots?
J'espère beaucoup de choses avec Crésus parce que franchement, je ne vois pas tout ce que je dois faire. Je ne sais pas, je me trouve en situation assez délicate, assez difficile.
Donc on vous a montré la voie d'une certaine manière, hein, parce que je crois que ça c'est important. Et surtout dans les moments de difficulté, de grande crise.
Oui.
Hein. Merci.
Oui,
voilà. Merci beaucoup, Mohamed, pour votre témoignage.
Merci à vous.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Crésus, Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Et nous enchaînons avec un nouveau témoignage, celui d'Elisabeth. Bonjour, Elisabeth.
Oui, bonjour.
Voilà, vous êtes sur Radio Crésus et vous avez souhaité témoigner. Nous avons Michel Knoll qui va introduire, je dirais, votre situation et vous aurez l'occasion de vous exprimer au cours de cette interview.
D'accord.
Michel.
Bonjour, Elisabeth.
Bonjour, Monsieur Knoll.
Alors, ça va?
Très bien, ça va.
Vous avez trouvé un bon fournisseur en pain maintenant que le vôtre...
Oui.
Ah oui, c'est important.
Oui, il y a de très bons pains dans notre secteur, des très bons artisans.
Enfin, vous étiez une femme remarquable dans le cadre aussi du soutien à votre mari, parce que vous aviez racheté une boulangerie-pâtisserie, et vous étiez obligée de racheter aussi l'immeuble, hein, sinon vous n'auriez pas eu le fonds.
Pas forcément, non. Au départ, le fonds n'était pas forcément accepté par la banque, oui.
Voilà, et donc, au fond, vous avez payé sans doute un peu trop cher, hein, c'est ce que vous avez remarqué d'ailleurs, dès que vous avez commencé à suer et à travailler 14-15 heures par jour, et vous aviez monté même des points de vente et tout, et vous aviez du personnel, et ma foi, les échéances étaient quand même trop fortes, malgré la progression du chiffre d'affaires. Donc, disons, votre prévisionnel n'était pas bon. Il n'avait pas intégré des choses et le vendeur a profité de votre enthousiasme, ce qu'on voit souvent quand il y a des repreneurs ou créateurs d'affaires, ils sont trop enthousiastes et donc la raison est un peu à l'arrière-plan. Et c'est effectivement ce qui vous est un peu arrivé, hein?
C'est ce qui nous est arrivé, effectivement.
Et donc, c'est intéressant de noter cela car ça peut servir des gens qui veulent aussi se mettre à leur compte. Car ce problème-là, je l'ai souvent rencontré dans la moitié des cas, mais dans le vôtre, c'est clairement exprimé parce que vous êtes une femme qui est une travailleuse et une excellente gestionnaire. Hein. Vous aviez sacrifié un travail salarié où vous aviez de l'avenir dans une grosse firme internationale pour effectivement travailler avec votre mari pour avoir une vie de famille effectivement intéressante.
Hein. Oui, tout à fait.
Mais c'était devenu l'enfer. Hein.
Voilà, c'est devenu l'enfer.
Voilà. Et vous avez tout payé et fait pour que le personnel soit payé jusqu'au dernier moment. Et même là, vous avez reçu des ingratitudes en récompense, n'est-ce pas?
Voilà, tout à fait. Sur certaines, une seule personne en partie, oui.
Qui vous a carrément craché à la figure.
Hein. Ah bah, elle était, voilà, odieuse.
Donc vous avez appris beaucoup de choses, vous voyez?
Ah, j'ai appris de mon expérience professionnelle et j'ai appris de l'expérience humaine également.
Ouais, c'est très intéressant sur ce plan, votre dossier aussi. Et vous avez très bien, dans le cadre de la liquidation de la société qui exploitait le fonds, vous avez même vous-même retrouvé un repreneur.
On a retrouvé un repreneur, on a pu revendre notre fonds de commerce.
Ouais.
Avec la maison.
Ouais.
Avec également la maison. Mais avec une moins-value assez conséquente.
Ouais.
Et nous avons dû nous séparer des deux succursales.
Ouais.
Une première dans le cadre du redressement et la seconde dans le cadre de la liquidation.
Ouais.
Voilà. Et
ouais.
avec une saisie de part un huissier par rapport à l'URSSAF. Donc, oui, effectivement. Les embûches sont enchaînées et la difficulté a été de plus en plus grande, ce qui nous a amené à un moment donné à prendre une décision, mon mari et moi, d'effectuer la liquidation judiciaire de notre entreprise, donc de la demander. Hein.
Oui.
Voilà, pour arriver à arrêter les frais.
Parce que vous aviez
et
un redressement.
Pouvoir s'en sortir civilement.
Vous voilà. Aviez un redressement d'abord.
On avait un redressement l'année dernière et on a demandé la liquidation en février dernier.
Parce voilà, que vous n'y arriviez plus. Hein.
Parce qu'on n'y arrivait plus. Voilà.
Voilà.
Donc on s'est dit à un moment donné on va y perdre encore plus de plumes et il vaut mieux s'arrêter quand il est encore temps.
Ouais.
Voilà.
Donc oh ben, vous avez
ça engendrait plein de choses.
Vous avez vu clairement les choses parce que vous vouliez préserver.
Je pense qu'on quelque part, alors je ne sais pas si des fois les gens croient à certaines choses, mais je crois qu'il faut faire preuve de bon sens à un moment donné.
Bravo.
D'intelligence et savoir s'arrêter quand il est temps.
Bravo.
Et de plus se dire, mais on va encore y arriver, on va encore relever, on va encore relever. Des gens pleins de bonne volonté, il y en a beaucoup. Il y a des gens travailleurs, comme vous dites. Et je pense qu'à un moment donné, on n'a pas, pas manqué de ça. Ça a été quelque chose qu'on a donné dans notre entreprise. La preuve en est, c'est quand ça s'est terminé, on a eu l'impression de faire un deuil. Donc, c'est vraiment quelque chose qui tient au cœur des gens, hein, les sociétés, hein, surtout en France.
Ouais.
Et je pense que, il faut savoir aussi s'arrêter quand ça ne va plus. Et quand ce sont des organismes extérieurs qui vous y plongent. Parce que, bien sûr, qu'on est passé par des périodes de médiation d'État, on a demandé des aides de communes, on a demandé beaucoup de choses. Et on a reçu très peu de choses, voire rien du tout.
Oui, alors
on a dû faire appel à nous-mêmes.
Elisabeth, c'est Régis Salter à l'antenne. Alors c'est vrai qu'on sent bien que vous aviez du courage, et il en faut.
Tout à fait.
Non seulement pour vous battre, comme vous l'avez fait, à la fois dans le cadre du redressement, et après dans le cadre de la décision à prendre, de la liquidation. Hein.
Tout à fait,
on voit qu'à un moment donné, effectivement, c'est le temps des décisions qui compte.
C'est le temps des décisions, oui.
Et il n'y a pas d'échappatoire. Il faut prendre cette décision. Vous l'avez prise aujourd'hui. Et effectivement, les choses aujourd'hui semblent aller mieux ou pas. Dites-moi.
Alors ça a engendré une liquidation civile, hein, inévitablement.
Oui.
Parce que tout ce qui est retard de paiement devient des dettes civiles. Hein, faut le savoir pour ce qui concerne le RSI, par exemple. Pour ce qui concerne les dettes de banque, ça devient des dettes perso à partir du moment où vous êtes engagé en tant que cautionnaire, hein, ce qui était notre cas, hein, au vu des sommes. Des erreurs qu'on n'aurait peut-être pas dû faire à la base. Alors après, il ne faut pas jeter la pierre, mais effectivement, on n'aurait peut-être pas dû faire un emprunt aussi conséquent avec un cautionnement et toutes ces choses. Alors très attention aux gens qui sont amenés à faire ce genre de choses. Bien poser la question du prévisionnel. Est-ce qu'il est effectivement très, très fortement... dans le bon sens, hein. Est-ce qu'il est positif pour faire une belle avancée et bien rembourser son emprunt, hein.
Et oui, mais comme le disait Michel, l'enthousiasme l'emporte quelquefois sur la raison et sur les calculs.
Parfois, le coup de cœur. Alors, il y a coup de cœur et enthousiasme. Alors, il ne faut pas se précipiter.
Non.
Le tout, c'est de ne pas se précipiter dans l'achat. Voilà.
Vous avez tout à fait
prendre les bonnes décisions.
Tout à fait raison, Elisabeth, car vous êtes un exemple parmi d'autres. Ce qui est singulier avec vous, c'est que vous avez aussi beaucoup de cœur et d'intelligence, voyez, et c'est un plaisir aussi de vous entendre. Mais nous avons eu des cas comme le vôtre encore plus importants. J'ai eu un dossier où un polytechnicien et sa famille ont fait des cautionnements pour des engagements de 7 millions d'euros, vous voyez. Et l'affaire a été rachetée avec un audit d'experts, un audit d'avocats. Mais quand j'ai vu l'audit, n'est-ce pas, qu'ils ont payé 100 000 euros, ben c'était nul. Ils n'auraient pas dû acheter. Parce que là, ils ont effectivement cru que les professionnels, les sachants avaient effectivement dit ce qu'il fallait dire, et bien c'était faux. Ils étaient peut-être à la solde du vendeur qui lui coule des jours tranquilles sur la Côte d'Azur, bien sûr. Il a très bien vendu son business.
À un moment donné, il faut faire preuve de bon sens, arriver à prendre du recul, se poser les bonnes questions, se faire entourer des bonnes personnes, parce que là, dans la liquidation civile, je vous avoue que il va y avoir liquidation civile, mais il y a aussi ma maladie. Alors, vous osiez peut-être pas en parler, mais du coup, moi, je suis tombée malade, gravement malade. Et ça engage d'autres mouvements de, il va falloir, voilà, se battre pour autre chose, se battre pour la vie et la famille, hein, et c'est le plus important. Je crois que derrière tout ça, le pouvoir professionnel, l'envie de réussir, faut surtout avoir envie de vivre et aimer les gens. Il faut avancer dans tout ça. Et je pense que c'est ce qui motive le plus, c'est ce qui pousse à avancer. Alors je vous avoue qu'en ce moment, du coup, ça fait des barrières à tout, mais je pense que après, ça devient le simple bonheur de vivre et d'être là et de profiter des belles choses. Et après, derrière, je reconstruirai ma vie professionnelle. Voilà, je pense qu'il me faut ce carton pour me retrouver sur moi-même et arriver à prendre des bonnes décisions.
Très bien. Vous voulez de nouveau refaire une entreprise ?
Non, je crois que c'est bon. J'ai compris la leçon.
Merci, madame. Merci.
J'ai compris la leçon.
Merci beaucoup, Elisabeth, pour votre témoignage.
Mais c'est moi qui vous remercie. Je pense que c'est nécessaire. Voilà, ça peut faire bouger les choses.
Et cette
j'y crois. Voilà.
Oui, une belle leçon de vie et de philosophie. Merci beaucoup. À bientôt sur Radio Crésus.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus,
vous êtes toujours sur Crésus et nous sommes avec Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Voilà, donc vous allez témoigner. Michel Knoll va nous faire un bref aperçu de votre situation et vous aurez l'occasion de vous exprimer.
Bon.
Ah, bonjour Philippe.
Bonjour Monsieur Knoll.
Ça fait plaisir de vous entendre depuis les années qu'on se rencontre. Hein. Ça fait toujours plaisir. Mais en final, on va vers la sortie, mais le chemin est assez caillouteux, hein, on peut dire. Hein. Il faut faire le petit mulet, hein, pour pas tomber d'un côté ou de l'autre. Hein.
Oui.
Non, mais vous êtes un grand expert. Hein. Vous êtes un homme qui a réussi sa vie. Et donc, votre femme, qui est aussi merveilleuse, voulait effectivement aussi rentrer dans une vie professionnelle indépendante. C'est comme ça qu'elle a acheté, en son temps, dans le nord de la France, une brasserie assez importante, en association avec une autre personne. Et, ma foi, vous étiez en dehors de cette chose, sauf que vous aviez dû donner votre caution. Ah, les fameuses cautions, hein, ça c'est le cauchemar, n'est-ce pas, monsieur Philippe, hein, signé caution.
Maintenant, oui.
Vous le feriez sans doute plus et vous le déconseillerez à tous vos amis, hein.
Même plus que mes amis, mes connaissances.
Mais à vos ennemis, direz, vas-y, sois caution, hein, François Hollande, allez, sois caution de la France, d'accord? Non, mais c'est vrai.
Pour certains, oui, je pense.
Ouais, ça serait bien. Il y en a, il faudrait qu'ils apprennent ce que c'est d'être caution, de payer le RSI, etc. Toutes ces bonnes choses. Alors, donc, votre problème, c'est que cette société en nom collectif, où votre femme était associée gérante, le principe de la société en nom collectif, c'est quand on veut attraper les gens dans le cadre d'une société et qu'ils soient immédiatement co-responsables du sort de la société. Dans une SRL, c'est limité au capital, dans une, sauf s'il y a caution, bien sûr, on va au-delà, et dans 90% des cas, c'est la caution pour les grosses dettes. Et chez vous, société en nom collectif, d'une part, votre femme était prise dans l'enclos, deuxièmement, vous, un mari extraordinaire, il signe caution, et votre signature avait de la valeur, et puis voilà, et bien sûr, cette société en nom collectif est liquidée, votre femme aussi. Et puis, ça dure depuis combien d'années ?
23 ans maintenant.
23 ans, vous voyez que vous avez l'enfer. Hein. Alors, créez votre société pour vous libérer, vous voyez ? Donc, 23 ans de combat, de procédures judiciaires. Et vous connaissez maintenant ce que sont les mandataires judiciaires. Vous connaissez les tribunaux. Vous avez appris beaucoup de choses. Hein, parce que
sur les mandataires judiciaires, notamment, oui... dont l'honnêteté n'est pas toujours la qualité première, pas plus que pour certains juges des tribunaux consulaires ou certains avocats, où les gens sont de mèche, tranquillement. C'est pas le cas pour tous, hein.
Oui, oui, je suis d'accord.
Bien au contraire, mais je suis mal tombé de ce côté-là.
On peut dire ça, tout à fait. Parce qu'en plus, l'affaire, quand vous l'avez rachetée, il y avait un audit, il y avait des bilans, mais qui étaient des faux bilans. Hein?
Tout à fait. Des bilans truqués, bien sûr revus à la hausse en ce qui concerne à la fois le chiffre d'affaires et le bénéfice.
Et vous aviez attaqué cela ?
Nous avions attaqué cela. Les anciens propriétaires, s'apercevant que les choses ne tournaient pas comme ils le souhaitaient, avaient signé un contrat pour racheter leur affaire.
Ouais.
Entre-temps, nous avons été obligés, enfin mon épouse et ses actionnaires, ses correctionnaires ont été obligés de déposer le bilan. Le mandataire judiciaire n'a pas voulu tenir compte de ce qui avait été signé. Il aurait pu aller chercher la somme promise et redonner la société à ses précédents propriétaires. Il ne l'a pas fait. Et du coup, nous nous sommes retrouvés dans cette situation-là. Alors, pourquoi n'a-t-il pas voulu le faire ? Dieu seul le sait.
Ouais. Et vous-même, l'affaire était en redressement judiciaire avant d'être liquidée ?
L'affaire était en liquidation judiciaire très rapidement.
Donc, le redressement, il n'y a pas eu de redressement avec une possibilité d'un plan ou d'un sursis compte tenu de l'exploitation de cet accord transactionnel.
Compte tenu de l'exploitation, c'était difficile à poursuivre. Et puis l'accord transactionnel, ni le juge consulaire, ni le liquidateur ne l'ont fait jouer.
Mais votre avocat, à mon avis, n'était pas bon, hein?
Nous avons appris juste au moment où on ne pouvait plus se retourner contre le mandataire judiciaire que notre avocate nous laissait tomber d'une part et que d'autre part elle n'aurait jamais attaqué le mandataire. Nous avons appris par la suite qu'un certain nombre de collusions existaient entre eux.
Donc vous.
C'est d'ailleurs un des premiers tribunaux de commerce qui a été supprimé en France.
Oui. Donc vous avez perdu enfin tous vos biens.
Ben oui.
Vous et votre femme, tout. Et les économies antérieures et tout. Vous avez trimé et vous trimez encore aujourd'hui. Vous avez quel âge maintenant, vous ?
68 ans.
Vous avez 68 ans et vous avez encore repris une activité car vous êtes un homme très brillant et vous vendez vos services à des firmes qui vous demandent.
Hein. Oui, et puis qui manifestement ne s'en portent pas trop mal.
Oui, non, vos anciens clients et tout disent toujours « Ok, Philippe, on te reprend de suite pour telle et telle étude. » Et vous arrivez à des résultats formidables.
Oui.
Des hommes comme vous, il manque en France. Et vous devez formater certains individus qui ont des charges d'entreprise, vous voyez, afin que quand ils arrivent sur le marché, ils soient efficients. Et vous avez dû payer cher, puisque en premier lieu avec votre épouse, avec cette société en collectif, aujourd'hui, vous savez tout cela, même les choses que vous n'appreniez, vous ne saviez pas à l'origine. Tout ce qui concerne le droit des affaires, vous avez beaucoup appris, n'est-ce pas ?
J'ai beaucoup appris et ça me sert bien aujourd'hui pour aider un certain nombre de mes clients.
Oui, c'est parfait, ça. On en parlera bien quand vous reviendrez, quand nous nous reverrons pour préparer la suite de votre dossier. Alors, à travers votre caution, quel est le montant de la dette qu'on vous réclame à vous maintenant ?
Eh bien, on me demande 630 000 euros.
C'est bien. Vous travaillez encore bien, vous payez les 630 et vous avez la paix quand vous irez au ciel. Hein ?
Oui.
Non, on va régler ça avant, afin que vous puissiez encore jouir un peu, monsieur Philippe. Hein ?
Oui.
Ok, je vous remercie. Je passe la parole à Halter qui veut vous demander si vous étiez satisfait de nos services, de Crésus.
Voilà, Philippe, si vous aviez en trois mots à résumer un peu, en trois adjectifs, l'accompagnement Crésus, comment vous le qualifieriez ?
Je le qualifierais de pragmatique, de professionnel et en même temps aussi de très humain.
Voilà. Eh bien, je crois que tout est dit, hein.
Je pense que pour des gens qui ont des soucis, le professionnalisme, le pragmatisme, c'est très bien. D'y mettre un petit peu peu de côté humain, c'est encore mieux.
Eh bien, merci pour ce retour. Hein. Ça nous fait chaud au cœur. Effectivement, l'humain, c'est notre préoccupation à Crésus. On vous remercie pour votre témoignage, très précieux. À très bientôt.
C'est moi qui vous remercie pour votre aide.
À très bientôt, Philippe. Merci. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus. La radio qui vous aide.
Vous êtes toujours sur Radio Crésus et cette fois-ci, c'est Jean qui témoigne, qui s'est inscrit dans une procédure de surendettement. Bonjour Jean.
Oui, bonjour.
Voilà.
Bon, je tiens donc à vous remercier de votre invitation là.
Mais
c'est
à vous.
Et puis rendre un hommage à l'association Crésus qui aident vraiment de toutes leurs forces, hein, dévouement, hein, ils apportent tout ça aux intéressés, hein, qui sont un peu dans la panade.
Eh bien, merci, voilà. Merci beaucoup Jean. Alors on viendra effectivement sur ces éléments peut-être en conclusion. Alors pour commencer, que les auditeurs comprennent bien dans quel cadre vous avez été accompagné, est-ce que vous pouvez nous exposer votre propre situation personnelle, les difficultés que vous avez rencontrées?
Oui, voilà. Bah écoutez, dans un premier temps, ce que je souhaite donc dire aux personnes qui sont malheureusement dans cette situation, c'est que ça marche. Vous voyez ?
Oui.
C'est une chose, c'est un dossier qui marche, vu que c'est une loi qui a été votée par le Parlement.
Oui.
Donc, voilà.
Alors là, on parle de la procédure de surendettement, je vous coupe, hein, mais vous-même, alors vous êtes employé, vous avez travaillé dans le transport logistique, c'est ça? Ou vous avez travaillé?
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Voilà, transport logistique. Et donc, si vous voulez,
jusqu'à
on
quand
vivait, comme il dit l'autre, chichement bien.
Oui.
Et puis la conjoncture a voulu que, ils ont ouvert les frontières, tout et tout. J'étais ce qu'on appelle chez un commissionnaire en douane. Donc, ils ont aboli les frontières, donc la réglementation douanière. Donc, nous, on gagnait notre vie en faisant, si vous voulez, les documents douaniers pour les
D'accord.
clients.
Hein? D'accord.
Donc, je me retrouve donc out, quoi.
Oui, oui.
Voilà. Et comme j'avais un peu d'économie, si vous voulez, bon, on a fini les économies et on a une seule fille, si vous voulez, on souhaitait qu'elle aille le plus loin possible dans les études.
Oui.
Et malheureusement, ça coûte, hein, en France, pour des études. Non public là, donc on a fait appel donc au crédit, hein,
donc pour l'éducation de votre fille et pour qu'elle suive une formation
pour être à jour, si vous voulez, dans tout ce qui est loyer, gaz, électricité.
D'accord.
Et vivre dignement, quoi,
parce
voilà.
Que elle faisait pas ses études sur le même lieu que votre domicile, c'est ça? Elle était...
Non, c'est-à-dire, voilà, elle okay. avait rien que l'école, il fallait payer à Paris Nation, là, vers Place de Nation, à
oui.
peu près 7 000 € d'inscription, hein, pour 6 mois d'école, si vous voulez.
D'accord.
En quatrième année. Voilà. Et puis, il fallait quand même vivre pendant 6 mois, quoi,
alors,
à Paris.
Vous vous êtes endetté de combien pour votre fille pour cette année, une année d'études?
Voilà, c'est-à-dire que je me suis endetté en tout et pour tout, si vous voulez, sur une période pratiquement de 3 ans, hein, de 31 500.
D'accord.
Vous voyez? Pour il y avait 3 organismes, si vous voulez.
D'accord.
Voilà, mais comme on gagnait si vous voulez très bien, je veux dire, on avait 1 800 € d'entrée d'argent.
Oui.
Et ça nous faisait, si vous voulez, on pouvait payer jusqu'à 780 € par mois
de crédit. D'accord. De crédit, c'est ça.
Voilà, voilà. Alors en plus, c'est pour ça qu'on a fait donc appel à Crésus et à donc à la société, enfin à la Banque de France.
Oui.
Parce que si vous voulez, il y a eu une chute importante et inattendue des revenus de madame.
De combien?
C'est-à-dire qu'elle était, voilà, de 300 et quelques euros.
Donc vous gagnez
C'est-à-dire
plus que 1 500 €.
Ouais. En pré-retraite, elle avait, je ne sais pas comment on fait en France, mais en pré-retraite, elle avait 1 030 €, et quand on a fait sa retraite, plus la complémentaire, elle s'est retrouvée à 705 € après 34
D'accord.
années de bon loyer au service.
Oui.
Donc, si vous voulez, il y a eu 300 et quelques euros en moins, Ce qui est, si vous voulez, pour nous, c'est une réduction, c'est quelque chose de structurel. C'est-à-dire que c'est à la retraite, hein, elle ne peut plus avoir autre chose.
On ne peut plus espérer avoir d'augmentation de ressources, sauf à travailler.
Voilà. Donc, vu aussi l'état de santé, voilà. Donc, si vous voulez, on est de 1 800 euros de ressources, on pouvait rembourser 780, pas de problème. On est tombé donc à 1 450 euros. Et c'est là, ça fait tilt.
Bah oui,
c'est pas bon.
D'accord. Voilà. Alors, combien vous avez mis de temps pour vous rendre compte que ça ne passait plus ? Tout de suite, quand c'est arrivé ou
C'est-à-dire, bon, dès qu'ils nous ont calculé, si vous voulez, pour madame, moi, si j'ai un fixe, si vous voulez, hein, mais dès qu'ils ont calculé pour madame, on était hyper, si vous voulez, étonnés, quoi.
Oui.
Voilà.
Et tout...
En pré-retraite, elle avait 1030 à peu près, et on tombe à 705 avec complémentaire.
Sans entrer dans les détails, on a bien compris, je pense que les auditeurs ont bien fait le calcul, hein, donc baisse de 300 euros de ressources, et là vous êtes confronté effectivement à ces difficultés de payer vos crédits. Combien vous avez mis de temps pour vous en rendre compte de ces difficultés ? Vous avez pris d'autres crédits ? Qu'est-ce que vous avez fait ?
Non, de suite. Alors, ce que j'ai fait, la procédure, je pense qu'il faut suivre, hein, c'est que j'ai demandé un rachat de crédit aux organismes et aux d'autres, si vous voulez, spécialisés dans les rachats de crédit.
Et ça donnait quoi?
Ça passait pas.
Ça passait pas.
Parce qu'ils prennent que sur 84 mois, alors j'ai passé sur 92 mois.
Donc, ça n'allait pas. Donc,
si vous voulez,
pas de rachat de crédit.
Voilà.
Ok. Donc,
pas de rachat de crédit.
C'est une solution qui saute.
J'ai demandé la correspondance écrite, comme quoi ça passe pas les rachats de crédit.
Oui.
Ce que j'ai fait, donc, j'ai fait ce qu'on appelle des mensualités de contact avec les organismes.
Sur les conseils
Je leur ai dit, je peux plus rembourser ce dont on a signé, hein, mais malheureusement, et je mets des mensualités de contact, tant par mois.
D'accord, hein. Et ces mensualités, Jean ?
Je réduis, si vous voulez, les mensualités pratiquement à 25% de ce que je payais.
Alors, pour expliquer, les mensualités de contact, ce sont des mensualités qui sont adaptées en fonction de votre budget et qui permettent d'honorer vos créances en fonction de vos moyens actuels.
Et en attendant, si vous voulez, la suite.
On est d'accord. Alors, c'était quoi la suite ?
Alors, la suite, voilà. Moi, j'ai fait une révocation, ce qu'il faut faire, une révocation auprès de ma banque des prélèvements automatiques.
Oui, donc ça, c'est pour...
Et en même temps, donc, j'ai envoyé en lettre commandée AR aux organismes ce qu'on appelle les mensualités de contact.
D'accord. Donc là, c'est pour vous protéger. Hein, on révoque les prélèvements pour éviter que le créancier ne vous prélève des sommes que vous n'êtes pas d'ailleurs en mesure de payer.
Voilà.
Et pour éviter les découverts bancaires et même peut-être et sûrement des rejets de prélèvements qui vous coûtent des frais bancaires. Et donc ça, c'est la spirale. Hein. Donc il faut enrayer le phénomène de spirale vers le surendettement, ce que vous avez fait. Et ensuite, une fois que vous avez mis tout ça en place et que vous êtes protégé, qu'est-ce que vous avez fait ?
Après, c'est très, très, très simple. Alors, juste pour dire, après, je suis allé chercher un dossier de surendettement à la Banque de France.
Oui, directement.
Voilà. Directement. Alors, moi, ce qu'il faut absolument, si vous me permettez, j'ai préparé un papier, de dire c'est un dossier qui est assez costaud, lourd, mais simple en même temps, à condition qu'on s'y implique à fond, c'est-à-dire...
Oui.
Mari et femme, on s'implique à fond.
Alors, vous dites qu'il est lourd et simple, c'est-à-dire qu'il est lourd parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations à donner, mais il est simple parce que ces informations, normalement, vous les connaissez.
Voilà, on les a. Voilà. Alors ensuite, s'il vous plaît, me permettez, parce que vraiment, ce sont quelque chose de simple et les gens, il faut absolument qu'ils s'intéressent
allez-y,
à ça.
Voilà. Allez-y.
Alors, j'ai dit, donc, s'intéresse d'une façon sérieuse, et rigoureuse, d'accord, et ne pas chercher à trafiquer des documents ou en fabriquer des faux.
Ah, surtout pas.
Non.
Voilà, parce que la Banque de France, vous savez, ils ont toutes les écritures que les gens ignorent que la Banque de France ne va pas chercher. Voilà. Ensuite, il faut prendre son temps de regrouper toutes les pièces demandées, hein, d'accord.
Elles sont nombreuses.
Gaz, loyer, machin, voilà. Et Et le point le plus important, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle l'alchimie pour transformer la pierre en or, si vous voulez. Voilà. C'est le plus important, je pense, et j'ai eu des échos par rapport à la Banque de France, c'est la lettre manuscrite expliquant les raisons qui vous ont mené à déposer un dossier à la Banque de France.
Oui, c'est la lettre.
Avec des mots simples c'est et sincères.
Lettre. Oui, c'est la lettre d'accompagnement.
La lettre, voilà, parce que à la Banque de France, on me dit, monsieur, c'est la base de tout. C'est une lettre manuscrite.
Alors, vous pouvez l'écrire à la main, c'est vrai.
Une lettre, voilà. Moi, j'ai fait une lettre de 6 pages.
Vous êtes allé loin quand même. Vous êtes allé loin. Vous savez, à Crésus.
Oui.
Parce que c'est vrai que la lettre.
C'est-à-dire que je suis allé, depuis pratiquement mon enfance jusqu'à maintenant.
Oui,
pourquoi? Je considère que la cause,
oui.
C'est un cycle. Donc, et le cycle, nous sommes tributaires du cycle économique, si vous voulez. Hein. Donc, quand l'économie marchait bien, ce que je disais, on gagnait chichement notre vie, on consommait tout, on cotisait tout. Et à un moment donné, vous savez, le cycle économique, là, paf, on est arrivé.
Oui. Alors Jean, juste pour revenir sur la lettre d'accompagnement, et vous avez raison de mettre l'accent sur cette lettre. C'est vrai qu'elle est fondamentale dans le dossier de surendettement parce qu'elle permet à la commission de surendettement d'apprécier au plus juste votre situation. Voilà. Et alors c'est vrai que aussi il faut expliquer, je dirais pleinement, mais sans trop s'étaler. Alors c'est vrai que 6 pages, c'est beaucoup. Mais vous aviez peut-être besoin aussi d'expliquer votre situation en détail. Généralement, à Crésus, on préconise une lettre d'accompagnement qui fait 2 pages maximum, mais qui reprenne...
Non, mais je pense... Oui, excusez-moi, mais oui. C'est-à-dire que il faut bien expliquer qu'on était en haut, il n'y a pas de problème, qu'on a commencé à baisser et qu'on s'est retrouvé carrément, comme on dit à Marseille, à Payol, c'est-à-dire en dehors du marché du travail. Donc, comment faire? Il faut bien leur expliquer tout ça. Je veux dire qu'à un moment donné, je gagnais, moi, à l'époque, en francs français, 14 000 francs français par mois, sur 13e mois, sur 13 mois, avec voiture de service, patin couffin, et sans se payer tout. Et d'un coup, je me retrouve au chômage à 8 000 francs, si vous voulez, pendant 6 ou 7 mois.
Tout à fait.
Et ainsi de suite pour madame, si vous voulez. Voilà. Donc, il faut expliquer ça, que si vous voulez, finalement, il faut que ce soit logique. On a suivi. Notre situation a suivi, à condition
alors,
que ce soit vrai, je veux dire, suivi la conjoncture économique.
On est d'accord. Alors ça, vous avez expliqué ça à la commission. Et aujourd'hui, votre dossier, est-ce qu'il est recevable ou est-ce qu'il n'est pas
alors,
recevable?
Alors voilà. Alors je vais vous raconter en 2 mots pour vous dire ça marche.
Dites-moi oui ou non. Alors dites-moi oui ou non. Oui. Il est recevable.
Oui. Alors oui. Non. Alors moi, je vous donne les dates. C'est déjà pour nous. C'est j'ai acquis de la vieille histoire. Je dépose le dossier le 18 janvier. D'accord.
De cette année 2013.
18 janvier 2013.
D'accord.
Le 24 janvier, mon dossier est recevable.
Mais c'est merveilleux.
Le 11 février, on a déjà le projet de la Banque de France. Le 7 mars, on a le plan avec l'accord de tous les partis. Le 14 mars, on a un plan définitif et on tombe de 780 euros par mois à 145 euros par mois pendant 96 mois.
Parfait.
Vous avez vu un peu je peux répéter les dates.
Non, mais c'est bien, on a bien... Vous savez, je crois que la chronologie, elle a bien été comprise. Et en quelques semaines, finalement, on voit que vous avez pu obtenir la recevabilité et la mise en place d'un plan. Vous l'avez accepté.
La recevabilité en 6 jours.
Voilà.
Parce que j'ai donné à ma propre tous les documents à la virgule près, la lettre manuscrite, par pitié, la lettre manuscrite... expliquer avec des termes simples, avec tout son cœur, attention à ne pas tricher, voilà.
Alors,
donner tous les documents et ça marche.
Donc Jean, aujourd'hui, si vous aviez des conseils à donner à nos auditeurs sur la procédure et même sur la manière de sortir du surendettement, qu'est-ce que vous pourriez leur dire et que dire de Crésus qui vous a accompagné?
D'abord, il faut absolument savoir que Crésus, il faut absolument contacter Crésus parce qu'il y a des choses que bon, nul n'est censé ignorer la loi, mais la loi, comme il y a 150 000 lois qui sortent par jour, façon de parler,
oui.
Il faut s'adresser à Crésus parce qu'ils ont la main dans le cambouis toute la journée et puis ils sont dévoués pour ça et ils aident au maximum. Mais attention aussi que il faut quand même, on va pas mâcher le travail aux gens. Hein. Il faut que quand
vous avez
on vous demande de faire la lettre, il faut la lettre. Mm-hmm. Il faut faire la lettre. Il faut pas mentir. Il faut pas cacher. Si dans le relevé bancaire, bah écoutez, il y a des fois des frais, vous savez ce que c'est. À côté oui. que la Banque de France soupçonne, il faut pas essayer de les cacher. Il faut présenter ça. Ou alors, on attend un mois de plus. Parce que vous savez, ils demandent les trois derniers mois toujours.
Oui, oui, oui. Mais alors, ce justement...
C'est être clean pendant trois mois, à la limite.
Ben, ce n'est pas à la limite, c'est... Voilà, il faut être sincère dans le dépôt de dossier. Juste,
voilà, je veux dire... Bon,
si vous aviez en deux mots, Jean, en deux mots. Alors, c'est vrai que ce n'est pas simple hein, de le faire en deux mots. Mais dites-nous en deux mots pour nos auditeurs, l'accompagnement Crésus, vous le définiriez comment?
Ben, je donne une note de 10 plus ou triple A plus.
Ah, triple A plus, ça va faire plaisir.
vous voyez, parce que, à vous dire vrai, si Crésus m'avait pas dit, monsieur, stop, faites des mensualités de contact de 10 euros par-ci, de 25 euros par-là, de 30 euros par-là, au lieu de 390, au lieu de 145, au lieu de 180, oui. Eh bien, je ne savais pas du tout que ça existait, que je pouvais le faire.
Eh bien, voilà. Donc, vous avez tout dit, voilà. Là, Jean. Hein, je crois que oui. C'est l'aide, ouais, l'aide dit, que peut apporter Crésus.
Voilà ce que j'ai. Ils vont voilà. calculer. Ils ont à peu près les barèmes. Je pense que c'est leur boulot, comme ils disent, toute
voilà.
la journée. Ils sont confrontés à ça. Mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers en disant, voilà...
Donc, ne dormons pas sur nos lauriers et battons-nous jusqu'au bout. Hein. Je crois que c'est important de le dire.
Soyons sérieux, honnêtes, sincères, simples et écrivons beaucoup et donnons les papiers exactement qu'il faut.
Eh bien, merci Jean, merci pour ce témoignage qui est très précis, hein, très, très fourni, on va dire. Hein, et on vous souhaite bonne suite. Hein, du côté
oui,
de Marseille,
vous,
hein, c'est ça.
Je suis vraiment. Nous sommes libérés, si vous voulez, parce que de 780 à 145, et il faut savoir, même si par malheur il nous arrive quelque chose où on s'enfonce encore plus par rapport, si vous voulez, aux revenus, ben, il est possible de revoir le dossier et de baisser les mensualités.
Bien,
et échelonner.
Vous connaissez toute la procédure en détail. Donc, je vous dis bravo, Jean, hein, pour le combat que vous avez mené. Et on vous dit à bientôt sur Radio Crésus. Merci
oui,
beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et puis, courage, c'est une loi. C'est pour, nous. Hein. C'est pour les, c'est pour nous. C'est pas pour les autres. Hein. Voilà.
À bientôt.
Mais il faut être dans les clous. Voilà. Comment dire.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, la radio qui vous aide.
Et nous sommes actuellement avec Alain en ligne. Bonjour Alain.
Bonjour.
Voilà, vous êtes sur Radio Crésus, vous avez souhaité accepter de témoigner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, en quelques mots, votre situation?
Alors, la situation est la suivante, c'est qu'actuellement, voilà, je suis comme des milliers de personnes actuellement surendettées. Dû à quoi? Ben, en fin de compte, dû aux différentes sociétés de crédit, voilà. Et puis surtout aussi au niveau qu'on fait pas toujours attention, au niveau aussi des taux d'intérêt. Enfin, voilà, le ça va. Ça peut aller très très vite.
Oui,
voilà.
Alors dites-nous un peu dans quelles conditions vous avez souscrit et pour quel motif vous avez souscrit ces crédits.
Eh bien, en fin de compte, j'ai souscrit ces crédits, bah, d'une part pour vivre aussi, enfin du moins tous les jours, mais à la suite aussi parce que avec du moins mon épouse, nous avions un projet, voilà.
De quel ordre?
De quel ordre? En fin de compte, pour ouvrir un cabinet de naturopathie, voilà.
D'accord, donc c'est un projet professionnel.
Tout à fait, oui. Exactement. Concernant mon épouse, et puis nous avons sollicité donc les banques pour avoir une aide, et aucune banque nous a suivi.
D'accord. Donc,
voilà.
Et pour quel motif les banques ont refusé de vous accompagner dans ce projet?
Alors, en fin de compte, ils ont refusé parce que moi, je ne gagnais pas assez d'une part. Mmh. Et puis, le projet pour eux n'était pas viable. Voilà.
D'accord. Donc, il n'y avait pas assez de chiffre d'affaires qui allait rentrer, c'est ça?
Exactement. Pourtant, nous avions fait... Nous avions fait tout ce qu'il fallait pour présenter aux banques. Oui. Hein, nous avions fait, en fin de compte, une étude et tout ça. Enfin, vraiment,
business
vraiment
plan, oui.
Dans l'ordre, un dossier complet. Mais aucune banque n'a voulu nous suivre, et particulièrement aussi ma banque qui n'a pas voulu du tout nous suivre sur ce projet.
Oui, donc il faut aussi savoir que les banques sont frileuses dans le financement des projets professionnels type projet. Entreprise libérale, parce que là c'est ça, vous mettiez à votre compte et oui. Vous alliez proposer des services de naturopathie. Donc on peut comprendre que les banques aient une certaine réticence à le faire, mais bon, quand on se lance et quand on a des objectifs, et surtout quand on a obtenu un diplôme, parce que c'est ça, et j'imagine que vous aviez obtenu un diplôme,
donc,
vous vouliez pouvoir proposer vos services aux patients, c'est ça concrètement?
Oui, concrètement, c'est ça, c'est exactement ça. Mon épouse a suivi, en fin de compte, une formation sur Paris. Donc, en fin de compte, bien sûr, tout ça a un coût. Ouais. En sachant que moi, dans ma propre banque, ça faisait longtemps que j'étais à cette banque. J'avais fait déjà des prêts que j'avais anticipés, remboursés et tout ça. Mais pour eux, ils n'ont pas voulu suivre le projet. Et donc, à la suite de ça, par rapport à l'endettement, en fin de compte, que j'ai actuellement, précédemment, j'avais fait un rachat de crédit. Et en fin de compte, j'avais sollicité aussi les différentes sociétés de rachat de crédit. Voilà.
Combien vous en aviez sollicité?
Oh, j'ai dû en faire, je vous dirais, plus d'une vingtaine.
Ah, c'est énorme.
Ah, c'est énorme. Oui. C'est énorme, j'ai sollicité tout ce qu'il peut y avoir sur Internet, voilà.
D'accord.
Et à chaque fois, on me disait, en fin de compte, on me refusait, en fin de compte, ce rachat. Pourquoi? Parce que bon, moi, j'étais en CDI, je suis animateur social, donc j'étais du moins en CDI. Donc à ce moment-là, ils me refusaient à chaque fois. En fin de compte, ils ne voulaient pas du tout racheter le crédit. Pourquoi? Parce que mon épouse était auto-entrepreneuse, parce que à ce moment-là, entre ce délai
oui.
De demande et tout ça, mon épouse a pu s'installer. On a pu ouvrir le cabinet. Tout
donc
ça.
Vous avez ouvert voilà. Alors comment vous avez trouvé le financement pour finalement ouvrir ce cabinet? Parce que vous nous disiez tout à l'heure que les banques refusaient.
Oui, tout à fait.
Et donc l'argent, vous l'avez trouvé où finalement?
Alors l'argent, en fin de compte, on l'a trouvé. Alors on a réussi quand même à se débrouiller. Et à la suite de ça, j'ai en fin de compte. On a trouvé, on a aussi quelques amis très proches aussi qui nous ont aidés sur ce
oui,
projet.
Oui.
Et en fin de compte, c'est comme ça qu'on a pu démarrer l'activité. Okay. Moi, mon épouse a pu démarrer son activité. C'était un gros projet, mais qui a pris vie. Et maintenant, ça fait plus d'un an que le cabinet fonctionne.
Donc le cabinet fonctionne aujourd'hui. Il y a un chiffre d'affaires
oui,
qui... Oui, allô
oui. Oui. Oui, oui, allô.
Oui, vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Voilà. Donc le chiffre d'affaires, l'affaire fonctionne, on va dire. Hein. Il y a de l'argent qui rentre. Et aujourd'hui, vous en êtes où alors dans le passage difficile? Parce que est-ce qu'il est toujours existant ce passage? Est-ce qu'il y a toujours une difficulté budgétaire qui persiste?
Oui, tout à fait. Alors j'en suis où? Bah écoutez, en fin de compte, au niveau des créanciers. Alors les créanciers, en fin de compte, par rapport à ce que j'ai actuellement, donc ils m'ont envoyé donc différents courriers. Ils m'ont fait du harcèlement et tout ça. Moi, avant toute chose, il faut savoir que dès le début, j'ai prévenu de la situation. J'ai écrit différents courriers, d'accord.
Oui, vous étiez clair.
À tous les créanciers que j'ai. Mmh. Voilà. Moi, j'ai fait cette démarche de écrire à tous les créanciers, comme quoi, voilà, j'ai fait telle démarche. Nous avons, en fin de compte, j'ai commencé par la Banque de France.
Oui.
La Banque de France a refusé le dossier.
Donc vous aviez introduit un dossier de surendettement.
Voilà, tout à fait. J'ai commencé par là. Pourquoi le dossier a été refusé? Parce que mon épouse était auto-entrepreneuse.
Alors, juste une précision, hein, et c'est important de le rappeler. Normalement, lorsqu'on dépose un dossier, et vous avez peut-être fait un dépôt en commun, c'est-à-dire que vous aviez indiqué vos coordonnées, vous et votre épouse, sur le même dossier.
Tout à fait,
oui.
Tout à fait, exactement.
Il faut savoir
exactement.
Que la décision de rejet, elle est opposable pour chacun est pris personnellement. C'est-à-dire que normalement, la commission aurait dû vous donner une réponse à la fois pour vous et à la fois pour et également personnellement pour votre épouse. Vous n'aviez pas le statut d'auto-entrepreneur.
Non, tout à fait.
Donc, il aurait été possible, on aurait pu imaginer que la commission vous accorde la recevabilité et la refuse pour votre épouse qui est, elle, auto-entrepreneur.
Oui, tout à fait.
Mais ça n'a pas été le cas.
Ouais. Ça n'a pas été le cas, parce que ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, j'ai eu quelqu'un, donc au bout du fil, une personne travaillant à la Banque de France.
Un gestionnaire.
Dit, voilà, et tout à fait, un fonctionnaire qui m'a dit, vous pouvez le faire seul,
oui.
D'accord, mais il faut savoir que si vous le faites seul, nous pouvons nous retourner contre votre épouse. Voilà. Enfin, c'est-à-dire prendre la rentrée d'argent directement auprès de mon épouse.
Alors, c'est les créanciers qui peuvent le faire, hein. C'est pas voilà, la Banque exactement. De France, mais et c'est, oui, c'est vrai, c'est exact. Après,
et oui.
comment votre épouse est-elle protégée dans le cadre des difficultés financières? Et c'est vrai que les créanciers vont aller voir la personne qui n'est pas protégée et forcément, des saisies pourraient intervenir auprès de votre épouse. Hein.
Tout à fait. Alors, moi, ce que j'ai fait, en fin de compte, j'ai, du moins, je dirais que je les ai protégés au maximum, protégés mon épouse par rapport à ça. Moi, j'ai fait la démarche suivante. Ensuite, puisque le dossier n'était pas recevable auprès de la Banque de France, ce que j'ai fait, moi, j'ai appelé directement. En fin de compte, j'ai cherché toutes les solutions possibles par le biais d'Internet.
Oui.
Ça, je toutes les solutions possibles pour pouvoir sortir de ce contexte.
Oui.
Je me suis adressé directement aussi à la Chambre des métiers de Versailles, d'accord, dans un premier temps, pour changer de statut auprès de mon épouse, pour qu'elle change son statut de auto-entrepreneuse à passer directement à un autre statut. Voilà.
D'accord.
Oui, dites-moi.
Et quel statut?
En fin de compte, c'était le statut de EIRL.
D'accord.
C'est entrepreneur indépendant.
Responsabilité limitée. Oui.
Je ne sais plus très bien l'appellation.
Responsabilité limitée, oui.
Voilà, tout à fait, exactement.
Donc vous avez fait la demande.
Et donc,
oui, ça a été fait.
Non, ça n'a pas pu être fait non plus, ça ne pouvait pas se faire non plus, et donc à la suite de ça, donc j'ai téléphoné directement au tribunal de Versailles, et directement par rapport à expliquer ma situation, et en fin de compte, il y a une personne qui m'a répondu dans les premiers temps, quand j'ai commencé ce long combat, on m'a dit, en fin de compte, le mieux que vous ayez à faire, c'est que votre épouse ferme l'activité.
Mmh.
Voilà. J'ai dit, comment ça? Elle m'a dit, oui, le mieux, c'est qu'elle ferme l'activité, qu'elle ne continue pas. Et alors que c'était le revenu, enfin, ça fonctionnait très bien et tout ça.
La source de revenu, hein, son activité.
Oui, oui.
Et donc, ça a été fait, le cabinet a été fermé ou pas?
Non, 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 on a continué. On a persévéré et on persévère encore. Voilà, non, on a continué. À la suite de ça, en fin de compte, moi, j'ai fait la démarche donc d'écrire un courrier à tous les créanciers expliquant notre situation, disant que ce n'est pas que je ne voulais pas payer, c'est que nous n'étions pas, pour l'instant, du moins, vu les revenus, expliquer la situation.
Bien sûr.
Être clair et ne pas faire la politique de l'autruche. J'ai écrit directement aux créanciers ce que j'ai fait.
Est-ce que vous avez pu trouver une solution avec les créanciers? Est-ce que vous l'avez trouvé, cette solution?
Oui. Alors, la solution, ça fait maintenant, ça fait 10 mois que je suis dans le combat. Je n'ai pas trouvé de solution. Quoique maintenant, il y a peut-être maintenant 3-4 mois maintenant, ils se sont, là maintenant, ils viennent vers moi et ils me font des propositions maintenant concernant pour les créances que j'ai avec eux. Voilà.
Donc il y a, alors on a bien compris que dans votre situation, il y a eu beaucoup d'obstacles à trouver une solution, puisque la procédure n'était pas adaptée à votre couple, on va dire, la procédure de surendettement de façon générale, hein,
oui,
que les rachats de crédit que vous aviez initialement tenté, plus d'une vingtaine, n'ont rien donné, et que finalement vous restez dans le cadre du droit commun, on va dire, avec cette possibilité toujours... qui reste possible, c'est de négocier à l'amiable avec les créanciers.
Tout à fait.
Évidemment, on est à la merci du créancier, c'est sûr. Mais il faut aussi que le créancier soit à un moment donné sensible à la situation et à votre volonté aussi de vous en sortir.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à tous les interlocuteurs que j'ai eus des différents créanciers, à chaque fois, ils me le disent eux-mêmes. Monsieur, n'importe comment, par rapport à notre courrier, nous avons bien reçu votre courrier, tout ça.
Nous voyons aussi que vous ne faites pas, vous faites pas sans réponse. Nous avons une réponse de votre part. Enfin, voilà, on voit qu'il y a la volonté.
Oui, il y a une relation de confiance qui est claire parce que vous avez été transparent et que vous avez exposé, en toute bonne foi, je dirais, votre situation.
Alors, exactement.
Aujourd'hui, quel a été le rôle de Crésus dans votre histoire finalement?
Alors, le rôle de Crésus, en fin de compte, je me suis adressé à Crésus, qui se trouve en Ile-de-France, à Poissy exactement.
Oui,
il y a une antenne, Crésus.
Tout à fait.
Et en fin de compte, après, j'ai été dirigé directement sur, en fin de compte, qui maintenant, je suis, je crois, à Crésus à Strasbourg.
Oui.
Par le biais, maintenant, j'ai le biais de Monsieur Bacharia.
Oui, d'accord.
Qui est bénévole et que, donc, souvent, nous sommes, je dirais, en relation téléphonique.
Oui.
Pour l'avancement par rapport à ses créanciers et à ce dossier, que d'ailleurs il m'a envoyé, que j'ai renvoyé les pièces qu'il me demandait.
D'accord.
Et justement, donc j'avance avec eux et à chaque étape et à chaque courrier, et je tenais à le dire aussi, c'est important, les courriers de relance, d'appels téléphoniques, de choses comme ça, il faut aussi, voilà, je dirais que c'est
faire
pas
un...
évident.
Oui.
Mais il faut, voilà, il faut aussi ne pas hésiter à expliquer cette situation. Et c'est surtout sur une base, enfin la base de la peur, il faut dire aussi. Hein.
Oui. Alors juste pour préciser pour nos auditeurs, c'est vrai que là vous êtes actuellement accompagné par la plateforme téléphonique d'accompagnement budgétaire Crésus. Vous êtes en relation avec effectivement un téléconseiller. Alors lui n'est pas bénévole, mais il est salarié. Mais il y a également effectivement des bénévoles experts qui peuvent intervenir. Mmh. Et l'accompagnement se fait principalement, on va dire exclusivement par téléphone. Mmh. Mais à une fréquence que nous choisissons avec vous, hein, tout simplement, pour vous assurer, je dirais, un accompagnement qui soit continu et que vous n'ayez pas le sentiment d'être seul dans l'affaire. Hein. Je crois que ça, c'est important. Hein.
Oui, tout à fait, tout à fait. Je tenais à le souligner. C'est très important. L'association Crésus est une association vraiment... vraiment, c'est quelque chose de primordial. Je sais qu'il n'y a pas que... Il y a d'autres associations qui...
Tout à fait.
Voilà, je suis avec Crésus. Et c'est vraiment très important. Le lien, c'est surtout le lien, c'est le lien humain. Ça.
Oui.
Avoir des personnes à son écoute par rapport à chaque situation.
Et c'est une des valeurs, Alain, que vous mettez effectivement en exergue aujourd'hui. Et c'est une valeur que nous défendons au quotidien. Je crois que la relation humaine, pour nous, c'est la base. Après, je dirais, toutes les techniques, toutes les connaissances juridiques qu'il faut mettre en œuvre, ça complète effectivement la manière de sortir de la difficulté. Mais je crois qu'il faut serrer les coudes à un moment donné dans notre société, qui n'est pas simple, hein, où l'individualisme est fortement développé. Et à un moment donné, il faut trouver effectivement une écoute, il faut trouver les bonnes réponses. Et je crois que Crésus, aujourd'hui, s'engage fortement dans cette démarche. Et vous n'êtes pas le seul à nous le dire aujourd'hui, hein, puisqu'on a eu d'autres personnes qui ont été interviewées, qui nous ont rappelé aussi que le côté humain était très marqué à Crésus. Hein. Si vous aviez, Alain, un mot pour conclure cette interview pour nos auditeurs.
Je dirais un mot, je dirais ne pas perdre espoir, surtout. Ne pas perdre espoir et surtout ne pas hésiter à contacter ces associations Crésus ou autres associations.
Oui.
C'est très important. Ils peuvent beaucoup, beaucoup vous aider. Vraiment.
Bien. Eh bien, merci beaucoup, Alain, pour ce témoignage, pour votre témoignage. À très bientôt sur Radio Crésus.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide.